Tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose, oui.
Anticyclonique.
Ça sert à être gagnant et avoir un jeu.
Aujourd'hui dans Anticychronique, les crocs d'Olivier Nautal.
Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une affaire qui dure et qui commence à faire vraiment tache dans le paysage gouvernemental. Il y a une quinzaine de jours, un nouveau tournant a été franchi. Nous assistons à un dialogue de sourds entre les partisans et les opposants au projet. D'un côté, le conseil général convaincu, un concessionnaire impatient et la préfecture régionale. Derrière ce beau monde, l'ombre d'un des personnages les plus importants de l'État. De l'autre, des paysans, des squatteurs hétéroclites et des associations opposées à la construction de la chose. Parmi les contestataires, des autonomes que les pouvoirs publics voudraient bien qualifier d'anarchistes, appellation étant censée discréditer leurs actions. Après des mois d'enlisement et de statu quo, on passe à la vitesse supérieure. Il me semble que nos décideurs se sont bien mis une grosse épine du pied en le faisant. Le mardi 16 octobre dernier, c'était l'état de siège dans ce coin champêtre où se tient notre affaire. Avec la mobilisation de 1200 CRS et un nom de code César, se déroulait probablement la plus importante opération de maintien de l'ordre depuis des lustres. S'agissait-il d'aller chercher des terroristes menaçants voulant s'attaquer à notre démocratie ? Ou encore devait-on reprendre le terrain suite à des émeutes sanglantes dans nos banlieues abandonnées à la pègre ? Non. Il s'agissait d'aller courageusement déloger 150 personnes installées illégalement dans la campagne à une trentaine de kilomètres d'une de nos capitales régionales et de procéder à la destruction des constructions de fortune qu'ils avaient érigées. En pleine campagne, dans des lieux dits aux noms évocateurs tels Bel Air, l'Isolette, le Pré Failli, les Planchettes ou encore la Sécherie, ce furent les mêmes scènes de guerre ou presque. Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes, n'avait certainement pas vocation à devenir si célèbre. Tout cela pour la construction d'un aéroport plus grand, là où il en existe déjà un à côté et dont le remplacement apparaît loin d'être une priorité pour l'aménagement du territoire. Le premier défenseur du projet est l'ancien maire de Nantes. Maintenant qu'il est devenu le premier ministre de la République française, la saga de Notre-Dame résonne encore plus. Avec les derniers rebondissements, se dirige-t-on vers un Larzac du XXIe siècle ? Garde à Rheim loue Notre-Dame. Je plaisante. Quoique, au départ, l'affaire de l'extension du camp militaire dans l'Aveyron, dans les années 70, présentait bien des similitudes. Des paysans qui ne voulaient pas partir, quelques marginaux qui s'en sont mêlés, une vision radicalement différente de la société de consommation, une répression policière disproportionnée qui entraîna une forte mobilisation, une résistance qui deviendra un symbole et catalysera en 1973 bien des luttes. Nous n'en sommes pas encore là, mais Jean-Marc Ayrault devrait faire bien attention et revoir la théorie des cycles en histoire. Après la victoire héroïque des forces de l'ordre contre les quelques anarchistes et leurs bunkers, qui s'avéreront être des maisonnettes de fortune, des tentes genre yourtes, des cabanes, y compris dans les arbres, et quelques caravanes, le silence ne règne toujours pas. Penchons-nous sur ces dangereux anars. Ils sont plutôt inclassables, mélange de SDF, de non-violents, d'idéalistes, de contestataires en rupture avec la société ou encore de personnes ayant choisi de sauter le pas de la marginalité en refusant la consommation comme mode unique de vie. Ils ont atterri, si j'ose dire pour un projet d'aéroport, là un peu par hasard. Par opportunité aussi, puisque des espaces libérés après les expropriations. contrairement aux idées reçues. Ils ont cohabité avec les paysans du coin qui ne voulaient pas partir et cela s'est plutôt bien passé. Avec le raid militaire du mois d'octobre, le résultat semble être exactement à l'opposé de celui escompté. Les liens se tissent, les solidarités se manifestent et un nombre croissant d'associations se lancent dans la bataille contre le projet d'aéroport cher à Vinci et aux politiques locaux, un rien mégalomane qui vole leur grand aéroport. Un peu de géographie, si je ne me trompe pas, Nantes est bien à moins de 2 heures de la gare Montparnasse par le TGV. À 350 km d'autoroute de la capitale et son aéroport fonctionne très bien, 60 000 mouvements annuels et un peu plus de 3 millions de passagers. Pourquoi vouloir encore plus si près de Paris? L'aéroport actuel de Nantes Atlantique est aussi proche de Saint-Nazaire et des plages du littoral. Sa taille semble normale pour la 6e ville de France qui possède environ 300 000 habitants, le double si on compte une large agglomération englobant Saint-Nazaire. Alors tout cela pour une folie inutile qui est en train de se transformer en lutte symbolique du pot de terre contre le pot de fer? Pas loin du pays d'Astérix, on aime bien aussi la baston. Et on a la tête dure dans la capitale de la région Pays de Loire, Nantes, qui fut la résidence de la duchesse Anne, en est la preuve. Depuis, l'assaut fait au gueux. La mobilisation enfle. Des Amis de la Terre à la Confédération Paysanne, à cela doit rappeler les souvenirs à notre José Bové local, d'Attaque à Droit au Logement, de Greenpeace à Génération Future, et j'en passe certainement beaucoup, les associations ruent dans les brancards. Et les passagers qui ne veulent pas prendre l'avion autour de Notre-Dame-des-Landes, semblent obtenir un soutien exponentiel. Si vous voulez en savoir plus, aller surfer du côté des sites des opposants, c'est bien fait et c'est édifiant. Il suffit de taper sur un moteur de recherche le nom Notre-Dame-des-Landes et accrochez vos ceintures.
C'était Anticychronique sur Divergence FM proposé aujourd'hui par Olivier Notal.